Élise Roussel est en deuxième année de thèse sur Marie-Jeanne Héritée de Villandon, une scénographie d'écriture en groupe sous ma direction à l'Université de Bourgogne. Elle a publié dans les dossiers du GRIL, Écrire en groupe, écrire le groupe, un article sur lequel elle revient un peu en ce moment, tiré de son mémoire de M2, le groupe des conteuses de la fin du XVIIe siècle, une construction.
Donc moi, je vais vous présenter le cas de Marie-Jeanne Héritier de Villandon, qui est une autrice de la fin du XVIIe siècle. J'ai décidé de la faire apparaître encadrée, puisque c'est comme ça qu'elle apparaît dans les notices que j'ai pu consulter, notamment dans le cadre de mon mémoire de deuxième année de master. Elle apparaît souvent encadrée de deux noms, du nom de l'héritier de Villandon, son père, qui est donc à sa droite, et de celui de Charles Perrault, qui est représenté comme son oncle ou son ou elle serait la petite cousine ou sa nièce. C'est pas très clair au niveau du lien entre l'héritier et Charles Perrault. Donc Marie-Jeanne Héritier et Charles Perrault. Donc Charles Perrault, que je vous présente plus, mais sur le portrait, vous avez marqué autour, au moment où le portrait est fait, qu'il est conseiller du roi, contrôleur général des bâtiments de Sa Majesté, tandis que Nicolas l'héritier, si on revient à son portrait, autour, il y a pas en dessous. Il y a noté qu'il est écuyer, mais historiographe du roi.
Ce sont quand même deux hommes connus de la société dans laquelle elle évolue.
Je pense que c'est le même problème
que Lucie, vous allez devoir me prendre.
Sur parole.
Donc l'héritier de Villandon, c'est Marie-Jeanne, c'est celle qui est entourée d'un cercle orange en bas à droite.
Et en fait, j'ai représenté son lien avec Charles Perrault,
qui passe notamment en fait par
leur grand-mère, et son cousin au troisième degré canon. C'est-à-dire que si on remonte, vous avez Marie-Jeanne qui est entourée, encerclée. Elle est la fille de Nicolas, l'héritier. C'est celui qui a beaucoup développé parce qu'il a une carrière particulière.
Il est contre-père du roi,
puis trésorier de la garde française et enfin historiographe. Il est aussi auteur de pièces littéraires. Il est marié avec Françoise Pépin qui est la couleur bleue, puisqu'elle est de la famille des Pépin-Pépin. Il est à ce moment-là qui est la marraine de Charles Perrault. Et ensuite, quand on remonte, c'est Françoise de Clercq. Alors là, elle apparaît en noir.
La sœur de Paquette de Clercq.
Françoise est mariée avec François Pépin
et ensemble, ils ont Françoise Pépin. Enfin, Pépin. Et de l'autre côté, Paquette de Clercq se marie avec Pierre Perrault
et ensemble, ils ont les frères Perrault, dont Charles Perrault, qui va se marier plus tard avec Marie Guichon.
Et là, j'ai mis aussi en vert foncé donc les enfants de Charles Perrault et de Marie Guichon, et notamment alors Pierre Perrault d'Armancourt, qui sert Charles Perrault dans la scénographie des fameux contes, qui publie ses contes en disant qu'ils ont été écrits par son fils. Pour expliquer leur caractère naïf, etc. Mais j'ai décidé aussi de faire apparaître Marie-Madeleine Perrault, qui serait la fille de Perrault, dont on parlait tout à l'heure,
et dont l'existence est parfois niée. Je pense que c'est juste une stratégie de l'héritier. Moi, j'ai choisi de l'intégrer, même si dans plusieurs textes sur les Perrault, notamment, elle n'apparaît pas du tout.
J'ai aussi fait de l'autre côté. Le côté du vert, puisque Marie-Jeanne héritier de Villandon,
elle apparaît souvent dans les notices encadrées par Charles Perrault, Nicolas l'héritier,
mais aussi il est mentionné dans les notices de Nicolas l'héritier aussi, un lien avec Guillaume du Vert,
qui est plutôt par rapport à Marie-Jeanne héritier au niveau du siècle. Puisque lui, il est plutôt au début du
17e. Il est président du Parlement d'Aix-en-Provence, évêque de Lisieux. Et en fait, je me suis interrogée
sur les raisons pour lesquelles il apparaissait dans ses notices. Et elle-même fait un lien avec lui dans son premier recueil des œuvres mêlées, paru en 1695. Elle insère une lettre qu'elle présente, une lettre anonyme qui la louerait énormément, à laquelle elle répond en toute modestie, évidemment.
Et en fait, dans cette lettre anonyme, il y a vraiment un lien qui est fait avec cet ancêtre prestigieux, savant, lettré, etc. Donc là, je remercie Laurence et Robert Simon, surtout pour avoir vu cet arbre généalogique
c'était vraiment pas facile à établir. Et on voit bien qu'en effet, il y a un lien avec Guillaume Duvert, nous qui nous paraît plus éloigné, mais en fait, ils sont rendus au quatrième gamme. Voilà, donc elle se présente quand même encadrée par Duvert, par Perrault, par Nicolas Léthier. En fait, ça remonte, si on va un petit peu dans le détail, par Nicolas Léthier, qui est marié avec Anne Buffet, donc en vert français, entre Berger et Berger-Séguin, et ça remonte à Gabriel François, et c'est comme si c'était son cousin. À la même génération. Donc, je me suis attardée sur Nicolas, l'héritier de Villandon, et puisque
j'aimerais revenir sur mon appellation de l'héritier de Villandon,
que je n'ai pas modifié dans l'arbre généalogique, mais j'en profite pour me dire ici, je modifie là le titre. C'est plutôt Nicolas, l'héritier, ou Nicolas, l'héritier de Nouvel An, parce qu'en fait, quand il publie, il se présente, et alors je l'ai inséré aussi. À chaque fois, j'ai marqué la manière dont il signait ses textes. Il signe soit de Nouvel An, soit l'héritier. Tandis que Marie-Jeanne, l'héritier de Villandon, elle signe tout, soit l'héritier, soit l'héritier de Villandon. Et ainsi, elle fait sens non pas vers le nom de son père, mais vers cette seigneurie qu'elle a acquise, en plus de celle de Nouvel An qu'elle avait finalement. Donc, ce que je voulais vous dire avec ce diapo, c'est que Nicolas, l'héritier de Villandon, il est historiographe, militaire, prédésienne, il a aussi une pratique lettrée et dramaturge, c'est-à-dire une tragédie, plus tard une tragicomédie. Il a écrit aussi des odes, ça en fait un auteur dans une pratique mondaine, notamment en lien avec tout ce qui est tout le cercle de Richelieu, puisqu'on a. On a Baudru qui était conseiller de Richelieu, la duchesse d'Aiguillon qui est la nièce de Richelieu à ce moment-là. Et puis on a Mazarin aussi qui apparaît à deux reprises. Il a aussi fait une traduction un petit peu plus tard dans sa carrière. Et j'ai mis l'astérix au niveau de 1664, la carrière d'historiographe, parce qu'on n'est pas sûr à ce moment-là de quel moment vraiment il commence à être historiographe. En tout cas, il y a vraiment une pratique savante. Et c'est de cette pratique savante que l'héritier se revendique. Parce que là, je me suis vraiment attardée sur les textes théoriques, quasiment sur ces textes, ou qu'elle a même fait à propos de ses propres textes, on va dire. Donc, tout ce qui est les appareils dédicatoires, les nouvelles dans les œuvres mêlées, donc dans son premier recueil. Dans la première partie, elle a ses nouvelles qui sont des contes, chacune est précédée d'une adresse à une femme, qui lui permet en fait de dire les origines de ce récit, ce qu'elle a voulu faire, etc. À la fin de cette première partie qui reprend les nouvelles de l'héritier, elle a la lettre à Madame d'Auger qui lui permet de théoriser sur ce qui va être le conte, mais qu'elle appelle encore des nouvelles à ce moment-là. Dans La Tour Ténébreuse, sa préface lui permet de revenir sur les origines des récits qu'elle va mettre en scène dans La Tour Ténébreuse, en reprenant notamment toute une histoire à propos du roi Richard Cœur de Lion. Et enfin, Les Épîtres héroïques, donc c'est sa traduction. Et dans son avertissement, elle avertit le lecteur que toutes les traductions qui ont déjà été faites des épîtres sont incomplètes ou fausses, et que donc la sienne est un vrai travail savant et érudit. Elle a vraiment comparé les différentes traductions pour montrer la sienne, pour mener son travail. Donc elle se présente vraiment comme une figure savante, et c'est un savoir qu'elle aurait récupéré de son père. Elle fait un lien beaucoup plus clair avec un autre auteur, avec Charles Perrault. Et le premier lien qu'on a pu établir entre ces deux auteurs transparaît dans le premier recueil de Perrault. En 1694, Gris Lys Nouvelle
avec le comte de Caudane, celui des souhaits ridicules, où là, dans sa préface, Perrault insère un madrigal en le nommant comme
celui, un madrigal qu'une jeune demoiselle de beaucoup d'esprit a composé sur ce sujet. Et vous avez l'astérix, là j'ai un cette fois-ci en tout en vert, avec nommée Mademoiselle l'héritier. C'est vraiment un lien assez clair vers elle. Et c'est
ça présente le madrigal comme.
Elle aurait lu le conte Caudane, elle lui aurait envoyé le madrigal et lui-même l'aurait inséré ensuite dans sa place. Là on a vraiment un lien entre les deux auteurs. Et c'est ce qu'on va aussi retrouver plus tard.
Dans son un an plus tard, en 1680.
en 1695 dans les œuvres.
Quelle est la première nouvelle de l'héritier et dédiée à Mademoiselle Perrault? C'est là où je citais pour certains.
C'est vraiment juste un jeu de l'héritier et de Perrault dans une famille de filles. Il n'y avait que des garçons, donc elles n'existent pas. Dans tous les cas, en fait, elle explique la scénographie qu'elle met en scène au cœur de ce conte marmoisin où il est sans tromperie. Donc elle raconte qu'elle se trouvait il y a quelques jours dans une compagnie de ce genre de traits, où on raconte tous des textes, des verbes qui se volent. Et à un moment donné, la conversation vient donc, sur les hérédits, sur les souhaits ridicules, donc les contes que Perrault a déjà publiés un an avant. Et il faut que Marie-Jeanne en raconte un à son tour.
Et elle va raconter
celui
de Marmoisin. Et en fait, elle,
dans la dédicace à Mademoiselle Perrault, elle demande à Mademoiselle Perrault de le lire et de le donner à lire à son frère, Pierre Perrault d'Armancourt, pour qu'ensemble, ils décident si oui ou non ce conte de Marmoisin figurera dans le recueil de Perrault d'Armancourt. Donc, elle reprend en fait la scénographie de Charles Perrault, soit en mettant la fille dans la boucle, si la fille a assisté, soit en tout cas en faisant un énorme clin d'œil intertextuel à Perrault, pour lui dire qu'elle n'est pas dupe, en gros, et elle en joue ensuite un moment après. En fait, il y a tout un dialogue intertextuel entre Charles Perrault et Marie-Jeanne Méritier, qui a notamment été présenté en textualité et intertextualité des contes. Que j'ai essayé d'illustrer avec des petites flèches de couleurs. J'espère que ce sera très clair. Mais, en fait, d'un côté, on a l'héritier, de l'autre, Perrault. L'héritier, j'ai repris le madrigal que je vous ai présenté tout à l'heure. Elle envoie le madrigal à Perrault, qui lui l'insère, donc elle l'envoie avec la flèche verte, si on illustre à chaque fois, et lui l'insère dans sa préface de 1694. Et ça, ce serait le renvoi, en fait, comme un échange. Et ensuite, dans la lettre à Madame de G, dont j'ai parlé, où elle théorise sur ses contes, en 1695, dans les œuvres mêlées, c'est-à-dire le privilège date d'octobre 1695, à la fin de l'année, serait une réponse à la préface, cette fois-ci, du recueil de 1694. Et de la même manière, les enchantements d'éloquence, qui sont aussi nouvelles dans les œuvres mêlées, répondraient aux faits déjà parus de Perrault dans le conte de ma mère Loire. Et ce dernier, 2 ans plus tard, quand il fait paraître Histoire au conte du temps passé, en 1697, en fait, aurait modifié son texte en réponse aux enchantements d'éloquence de Marie-Jeanne. Et vice-versa, pour le dernier exemple, la droite princesse reprendrait des éléments de Barbe bleue, du petit chapeau rouge, et Perrault remodifierait à nouveau son conte quand il republie dans son recueil 2 ans après. Donc pour eux, c'est vraiment le signe d'une connivence, d'un lien entre les deux auteurs qui est établi. Qui est donné à voir aussi de cette manière-là. Donc, on aurait vraiment l'impression qu'elle met en scène le dialogue avec Perrault. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que si dans les œuvres mêlées, donc dans ce premier recueil, en effet, sur les 4 nouvelles, il y en a 3 où il y en a bien avec Perrault, dans les autres recueils, dans la Tour des Névroses dont j'ai parlé, dans les Quatre du Destin, dans sa dernière traduction, il n'y a aucune mention de Perrault. Il n'en paraît plus. Et c'est comme si finalement, elle avait besoin de faire un lien avec Charles Perrault pour son premier recueil. Et ensuite, elle pouvait être seule finalement sur le champ. Elle était insérée dans le champ littéraire et elle n'avait plus besoin de lui. Et je me pose la question aussi du coup de ce lien avec Duverre, mentionné comme ça dans une lettre présentée comme anonyme dans son premier recueil, qui ensuite n'est plus du tout, n'apparaît plus du tout. Et en fait, j'ai vu ce lien parce qu'il surgit dans les notices Voilà, ce sont mes deux questionnements. Et en fait, le lien avec Duverre,
je l'ai vu vraiment très tard.
Donc, j'avais fait aussi toute une espèce d'enquête de à quel moment ça apparaissait en premier. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'en fait, ça apparaît de manière totalement fausse. On a l'impression qu'en fait, c'est vraiment ça viendrait de la mère de l'héritier de Villandon. Et pas de Nicolas. Alors que dans l'arbre généalogique, si j'arrive à finir ma carrière. C'est, le lien est fait par Nicolas, l'héritier Villandon, et pas par la mère de Marie-Jeanne, puisqu'elle a fait le lien avec Perrault, c'est un autre côté de la famille. Mais ensuite, il y a une espèce de mélange. Dans beaucoup de notices, en fait, ça passerait par la mère.
Voilà, ce sont mes deux questionnements.